Donc, Ésaïe chapitre 9, nous allons lire du verset 7 jusqu'au chapitre 10, verset 4. Pourquoi un découpage comme cela? Vous savez que les chapitres et les versets n'existaient pas au début et parfois ça ne correspond pas au sens du texte. Donc si on veut la section, en quelque sorte, c'est du chapitre 9, verset 7 jusqu'au chapitre 10, verset 4. Je vais lire ce texte, mais je vous ai déjà montré en quelque sorte par le PowerPoint que le thème de ce texte, c'est la colère de Dieu. Un des avantages d'ailleurs de faire une exposition suivie d'un texte, c'est qu'on tombe sur des idées que l'on n'a pas forcément envie d'aborder, parce que je pense que chacun de nous aimerait beaucoup plus parler de l'amour de Dieu que la colère de Dieu. Mais puisque la colère de Dieu, ça fait partie du texte, ça fait partie des attributs de Dieu, on va en parler. D'ailleurs, on peut dire que la colère de Dieu, ça rentre très bien dans ce que Antoine disait tout à l'heure, parce que c'est son opposition à l'injustice, au mal. Et je pense que, au niveau humain, Antoine a ressenti un petit mouvement de colère aussi. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard pour le culte, il a raconté comment il était contrôlé avec un passe-navigo parfaitement en état, mais puisqu'il n'avait pas pu le faire fonctionner dans le bus, on a voulu lui infliger une amende, donc c'est parfaitement injuste, on va dire. Mais Dieu voit le mal, l'injustice, et il y a une colère qui est son opposition à cette injustice et au péché. Donc ce matin, on va faire deux choses. La première chose, on va lire le texte et commenter le texte. Ça, c'est la première moitié de mon intervention. Et la deuxième moitié, on va essayer de prendre un peu de hauteur pour parler de la colère de Dieu et même la colère des hommes, pour essayer de réfléchir bibliquement sur cette question de la colère. C'est bien, donc... Okay. Alors, lisons Ésaïe 9 à partir du verset 7. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance. Éphraïm et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté « Des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. L'Éternel élèvera contre eux les ennemis de Retsin, il armera leurs ennemis. Les Syriens à l'Orient, les Philistins à l'Occident. Et ils dévoreront Israël à pleine bouche. » Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe. Il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche, le palmier et le roseau, en un seul jour. Entre parenthèses, l'ancien et le magistrat, c'est la tête. Le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Fin de parenthèse. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent. Ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, sa main est encore étendue. Car la méchanceté consume comme un feu, qui dévore ronces et épines. Il embrase les passeurs de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Par la colère de l'Éternel et des armées, le pays est embrasé, et le peuple est comme la proie du feu. Nul n'épargne son frère. On pille à droite, et l'on a faim. On dévore à gauche, l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé, et ensemble ils fondent sur Juda. Malgré tout cela, la colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, à ceux qui transcrivent des arrêts injustes, pour refuser justice aux pauvres et raver leurs droits aux malheureux de mon peuple, et faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Alors, quelques mots d'explication. La dernière fois, nous avons vu toute une partie sur la lumière et le Messie, parce que Dieu est à la fois amour et saint. Il promet dans son amour que le Messie, le Christ, viendrait et que la lumière s'élèvera. Et nous, en tant que chrétiens, on veut marcher dans la lumière. Et on tourne la page, on parle de la colère de Dieu. Grand contraste. Et quatre fois, nous avons la même phrase, vous l'avez peut-être saisie. Chapitre 9, verset 11, par exemple. « Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. » Le semeur traduit « sa main reste levée » et la Bible en français courant dit « son poing reste menaçant ». Donc la colère ne s'apaise point, son poing reste menaçant. Nous l'avons au verset 11 du chapitre 9, nous l'avons au verset 16 du chapitre 9, nous l'avons au verset 20 du chapitre 9 et nous l'avons au verset 4 du chapitre 10. Quatre fois la même phrase. Malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. Juste pour le mettre dans son contexte, parce que on lit Ésaïe depuis quelques semaines, on a suivi l'histoire du roi de Juda. Donc Juda, c'est le royaume du sud. Akaz, le roi qui n'a pas voulu faire confiance à Dieu, mais a plutôt fait appel aux Assyriens. Il est allé jusqu'à adopter leur religion. Il a copié l'autel de leur dieu à Damas pour le faire construire à Jérusalem. Donc c'était l'histoire du royaume du sud. Il y a des chaises par là. Hein? Donc le projecteur était braqué sur Juda, sur le royaume du sud, et puis, d'un seul coup, le projecteur est braqué sur le nord, sur le royaume du nord. Donc le premier verset, le verset 7, a dit « Le Seigneur envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. » Et Israël, c'était le nom du royaume du nord. Donc on va parler maintenant, pas de Jérusalem, mais du royaume du nord, dont la capitale était Samarie, parce que les Juifs étaient divisés en deux royaumes. Et on va voir pourquoi Dieu dirige sa colère contre Israël. Donc on va relire ce texte, et on va chercher à comprendre dans un premier temps, puis comme je dis, on va élargir le sujet. La colère de Dieu est quand même un thème important dans la Bible. Combien de fois dans la Bible, à votre avis, est-ce qu'on trouve le mot colère? La colère de Dieu. Jean-Claude regarde vite, mais je vais vous dire, quelqu'un a un chiffre à proposer. Non, c'est 306, 306 fois. Plus de 300 fois, on parle de la colère de Dieu dans la Bible. 300 fois. Alors, revenons donc à ce texte. Je vais le relire avec quelques commentaires. Pour essayer de mieux comprendre. Chapitre 9, donc, verset 7. De 7 à 9. Et on voit que Israël pense pouvoir s'en sortir, même si la colère de Dieu est dirigée contre Israël. Le Seigneur envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël, tout le peuple en aura connaissance. Éphraïm, donc celui des tribus du nord, les habitants de Samarie, qui disent avec orgueil et fierté, « Tes briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. » Donc, ça veut dire qu'ils ont dit, voilà, on était attaqués peut-être, nos maisons en briques sont tombées, c'est pas grave, cette fois-ci on va bâtir avec des pierres de taille. Hein. « Des sycomores ont été coupés, c'est pas grave, on les remplacera avec des cèdres, donc des arbres beaucoup plus nobles. » Donc ils avaient un certain orgueil de penser qu'ils allaient s'en sortir et que l'avenir serait meilleur. Versets 10 et 11. Mais le problème, c'est que la Syrie à l'est et les Philistins à l'ouest vont quand même attaquer Israël. Verset 10. L'Éternel élèvera contre les ennemis de Retsin. Il armera leurs ennemis. Retsin, c'était le roi des Syriens, en fait. Et ses ennemis, c'était le parti, c'est un petit peu technique, le parti pro-assyrien en Syrie, qui voulait en fait plutôt payer les tributs en Assyrie plutôt que de faire la guerre. Mais bon, quand même, les Syriens à l'Orient, les Philistins à l'Occident, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Verset 12. Malgré cela, le peuple ne se tourne pas vers Dieu. Il y a des psaumes qui disent la même chose. Verset 12. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe et ne cherche pas l'Éternel des armées. L'espérance de Dieu, c'est que dans des moments difficiles, que l'on crie vers lui. Et on voit que les êtres humains ont toujours deux réactions devant le mal, devant les difficultés, devant l'injustice, devant les tuiles de la vie. Soit on dit, c'est pas juste, pourquoi Dieu ne s'occupe pas de moi, pourquoi il reste silencieux, pourquoi, etc., etc. C'était d'ailleurs le thème du film qu'on est allé voir avec Marie hier, donc Silence de Martin Scorsese, donc le silence de Dieu face à la persécution des chrétiens au Japon, film très intéressant. Et les gens qui disent, mais c'est pas juste. Ou bien on dit, devant ces difficultés, il n'y a que Dieu qui puisse m'en sortir. Donc je me tourne vers Dieu. Et le peuple d'Israël a choisi de ne pas chercher l'Éternel. Verset 13. Dieu va donc ôter les responsables du pays. Il dit, il va arracher la tête et la queue. Il explique entre parenthèses au verset 14 que les anciens, donc du peuple, les magistrats, ceux qui jugent, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Donc que ce soit, on va dire, le pouvoir civil ou le pouvoir spirituel, ils vont être arrachés. Et il y a une sorte de jeu de mots. Dans le Summer, ils disent pour le verset 15, les guides de ce peuple égarent et ceux qui sont guidés chemin vers la ruine. Donc c'est ils vont se perdre en quelque sorte. Et en fait, le prophète Isaïe élargit cette condamnation parce qu'il n'y a pas que le prophète. L'ancien, le magistrat, il dit au verset 16, c'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir ni des jeunes hommes, même des orphelins et des veuves. Et c'est la seule fois dans la Bible où il dit ça, parce que normalement on dit toujours qu'il s'occupe des orphelins et des veuves. Mais pourquoi? Car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Quel était un des premiers versets qu'Antoine a lu ce matin? Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça. Tous sont des impies et des méchants. Et la situation dramatique cette situation dramatique du royaume du Nord à la fin de son existence. On lit au verset 17 que la méchanceté consume le peuple comme un feu. Le pays est embrasé. C'est la guerre fratricide. On pille à droite, on dévore à gauche. Chacun dévore, dans ma traduction, c'est la chair de son bras. Une autre traduction dit la chair de ses enfants, parce qu'en fait, c'est la guerre fratricide. Et ce qui vient après, c'est Manassé dévore Éphraïm, donc c'était deux tribus qui formaient le royaume du Nord, et Éphraïm dévore Manassé. Donc le pays est divisé, désuni. Et malgré tout cela, la colère de Dieu ne s'apaise point. Donc, on passe au chapitre 10, où Ésaïe prononce une malédiction. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, à ceux qui transcrivent des arrêts injustes, que ce soit la cour d'appel ou que ce soit un contrôleur. Malgré tout cela, si on refuse la justice aux pauvres, verset 2, si on enlève le droit aux malheureux, si on fait des veuves une proie, si on fait des orphelins un butin, malheur, malheur, parce qu'un pays ne peut pas vivre dans la justice. Donc, la conclusion, et on sait que cela s'est passé en fait en l'an 722, donc là on est quelques années avant, je crois que j'avais dit 13 ans, hein, c'était ça un des premiers messages qu'on a fait, parce que Ésaïe devait avoir un fils, et avant une vierge devait enfanter, et avant que l'enfant arrive à sa majorité, le pays serait détruit, en fait. Donc en 722, et donc il y a de deux choses l'une, verset 4, certains vont être courbés parmi les captifs, donc ils vont partir en Assyrie, et d'autres tomberont parmi les morts. Donc c'est la mort ou la captivité, l'exil, la déportation, qui va durer 70 ans. Donc voilà. Enfin, plus que ça, c'était la captivité du royaume de Juda qui a duré 70 ans. C'était plus long pour le royaume du Nord. Et dont on ne sait même pas d'ailleurs si certains étaient restés pendant tout ce temps-là pour revenir. On ne sait pas. Donc, c'est la colère de Dieu qui est l'opposition au mal, au point où même son propre peuple élu est envoyé soit en captivité ou qui doit subir la mort. Voilà un chapitre, on va dire, pas très réjouissant, dans un sens, mais qui montre que, pour citer un autre verset biblique, on ne se moque pas de Dieu, parce que Dieu est saint et parfait. Et c'est là où on va passer à la deuxième partie de ce message, donc pour avoir un certain nombre de réflexions sur la colère. D'abord, la colère de Dieu. Son refus du péché, du mal. Le jugement des personnes qui commettent de telles choses. Des personnes, n'oublions pas, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, c'est même nous. Et on voit deux choses quand même par rapport à cette colère de Dieu. D'abord, que Dieu est patient. Dieu est patient. Donc, je vais lire les versets que j'ai cités. Nombre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bienveillance. Il pardonne le faute et le crime. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et quatrième génération. Mais il fait grâce jusqu'à 1000 générations de ceux qui ont placé leur foi en lui. Lent à colère et riche en bienveillance et en bonté. Le psaume 145, verset 8. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. C'est un texte qui revient pas mal de fois dans l'Ancien Testament. Dieu est patient. Il donne l'occasion aux uns et aux autres de changer d'avis, de se repentir, parce qu'il ne veut pas la mort du méchant. Et justement, il nous sauve. Et là, on arrive à la Nouvelle Alliance, à notre époque. Parce que, là encore, il nous sauve de la colère. Je vais lire deux de ces versets, Romains 5, 9, qui parle de notre salut. Je vais le mettre dans son contexte. verset 6. Lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, c'est le verset 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc le jugement. Parce qu'on est déclaré juste, on ne subit pas sa colère. On voit la raison pour laquelle Dieu doit convaincre de péché, de jugement et de justice avant que quelqu'un puisse se convertir. Parce que dans notre monde, j'ose dire que la plupart de nos concitoyens ne croient même pas qu'il y a quelque chose après le tombeau, ou s'il y a quelque chose après le tombeau, Dieu est amour de toute façon. Donc, il va m'accepter. Seulement, bibliquement, ce n'est pas ça. Nous sommes acceptés parce que, étant pécheurs, il nous déclare justes. Parce que Jésus a été puni à notre place. Et donc, nous serons même sauvés de sa colère. Nous n'aurons plus à subir la colère de Dieu, parce que la colère est tombée sur son propre Fils en le punissant à notre place. Et puis, 1 Thessaloniciens 4, 10, je ne suis pas sûr que j'ai mis la bonne référence là. Non, c'est chapitre 1 et le verset 10. La perfection n'est pas de ce monde. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 1 et le verset 10. Je vais lire les versets 9 et 10 d'ailleurs. On raconte quel accès nous avons eu auprès de vous, donc c'est Paul qui parle, et comment vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc il nous délivre de la colère du jugement de Dieu. Nous n'avons plus à le craindre. Ce n'est pas que cette colère, ce jugement n'existe pas, c'est que nous n'avons plus à la craindre, parce que nous sommes délivrés par Jésus. Donc voilà, la colère de Dieu existe, elle est réelle, contre toute injustice, et c'est bon de le savoir, parce qu'il y a tellement d'injustice dans ce monde, que si je devais moi-même aller au tombeau en disant, c'est toujours le mal qui triomphe, à quoi sert, en quelque sorte, d'essayer de s'opposer au mal? On vit dans son petit monde, on vit dans sa bulle, on se protège, on se dit c'est tout. Mais le psaume 73 nous dit qu'il faut aussi regarder au-delà de notre vie et Dieu va rétablir la justice. Seulement, il y a un truc dans lequel il n'est pas totalement juste. C'est qu'il ne nous punit pas, mais il est quand même juste, parce qu'il a puni le mal en son propre Fils. C'est ce qu'on a lu ce matin. Donc voilà la colère de Dieu. Alors nous, la colère des hommes, la colère humaine. Cette colère devrait être aussi tarée, donc une opposition absolue au péché. Donc on devrait ressembler à Dieu et être également des hommes et des femmes en tant que chrétiens qui s'opposent au mal. D'abord en nous-mêmes d'ailleurs, et puis dans le monde qui est autour de nous. Le seul petit problème, c'est que nous avons du mal à nous maîtriser. Et parfois notre colère, c'est comme un fleuve qui sort de son lit, qui n'est plus maîtrisé. Et donc Dieu maîtrise parfaitement sa colère. Et l'équilibre avec son amour et l'ensemble de son caractère, nous avons du mal. Et c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de versets bibliques, j'ai cité quelques-uns là, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, qui nous invite à éviter la colère. Je vais simplement les lire. Proverbe 14, verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des stupidités. Comme j'ai entendu un prédicateur dire une fois, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Celui qui est prompt à la colère commet des stupidités, fait des stupidités. Je crois que c'est clair. Proverbe 29. Un homme colérique excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Il excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. En revanche, le verset 1 du chapitre 15, une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. Donc, une parole douce calme la fureur. Ou Proverbe 19, verset 11, l'homme qui a du discernement est lent à la colère et met son honneur à passer sur une offense. Donc, si on a du discernement, on est lent à la colère. Et maintenant, on arrive au Nouveau Testament, deux versets qui s'adressent aux chrétiens. D'abord, dans l'épître de Paul, la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 8. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie et paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Donc, colère, animosité, méchanceté, calomnie, etc. Donc, évitez cela. Et Jacques, dans sa lettre aux chrétiens, dit, chapitre 1, versets 19 et 20, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Je vais mettre un petit bémol à cela tout à l'heure, mais la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parfois, on nous dit qu'il faut ressembler à Jésus, ce qui est vrai. Est-ce que Jésus a maîtrisé sa colère? Certainement. J'ai mis le texte de Marc 11, 15 à 17. Vous connaissez certainement, quand Jésus est allé dans le temple, il a pris un fouet, il a chassé les marchands du temple, qui utilisaient le temple comme un endroit pour se faire de l'argent. C'était bien vu, il faut des sacrifices dans le temple. Les prêtres avaient décidé que seules les bêtes vendues dans l'enceinte du temple étaient valables. Donc, on hausse les prix. Après, on a dit, ah oui, mais il ne faut pas utiliser l'argent ordinaire dans le temple. Donc, ils avaient des pièces spéciales pour le temple. Donc, avant d'acheter, il fallait changer son propre argent contre l'argent du temple. Et le taux d'échange était assez avantageux pour les prêtres, on va dire. Donc, les peuples achetaient très cher ce qu'ils devaient sacrifier. Donc, c'est le contexte. Je lis le texte. Marc 11, verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se met à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Donc, dans un sens, la juste colère l'a poussé à l'action. Et si la justice en reste là, c'est très bien. J'ajoutais un autre verset, pourquoi? Parce que le mot « colère » n'est pas dans ce texte, il parle de zèle. Mais dans Marc 3, verset 15, il y a quand même le mot colère. C'est un jour de sabbat, et il y a un homme qui a une main paralysée, et on guette Jésus pour voir s'il va travailler le sabbat et guérir cet homme, afin de l'accuser. Et le verset 5 dit, « Alors promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit, et sa main fut guérie. » Bon, c'est bien gentil de traduire « indignation », mais en fait, c'est le mot qui est traduit partout ailleurs, « colère ». Donc, peut-être que la traducteur ne voulait pas mettre le mot « colère » pour Jésus, mais c'est la seule fois où le mot « orgé », donc dans le grec, est traduit « indignation » plutôt que « colère ». Jésus a regardé avec colère. Selon la traduction, la c'est laquelle? La colombe, ils disent bien la colère. Amen. Pour la colombe, alors. Parce qu'ils ont bien traduit. Donc, Jésus a réussi à maîtriser sa colère. Alors, pour nous, conclusion, en quelque sorte. Que notre colère soit maîtrisée et de courte durée. Éphésiens 4, versets 26 à 27. Verset très intéressant, c'est pour ça que j'ai parlé d'un petit bémol tout à l'heure. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Donc, si on prend bien ce verset, on peut se mettre en colère sans pécher. Parce qu'il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Parce que la colère, dans la mesure où on arrive à la maîtriser, c'est ça qui nous pousse à l'action. Si on est resté totalement indifférent aux injustices dans le monde, etc., ce ne serait pas bien. Donc il faut une certaine colère, mais il ne faut surtout pas que la colère, que le soleil se couche sur notre colère, donc il ne faut pas que ce soit une colère de longue durée, mais le truc qui nous pousse à l'action. En revanche, la parole nous dit dans Romains 12 et le verset 19 que une meilleure chose à faire, ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc on voit là que la colère ne doit pas se diriger contre des personnes. Parce que là, immédiatement, la colère contre des personnes, on prend la place de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai essayé de résumer ce qui me semble être une attitude juste par rapport à la colère. C'est à la fois basé sur les Écritures, basé sur l'observation du monde, basé sur nos mécanismes psychologiques. Enfin, c'est l'ensemble de tout ça. Donc, je vous propose cela comme étant une bonne façon de voir les choses. La première chose, c'est d'éviter de refouler la colère en nous-mêmes. Parce que cela est très mauvais pour la santé, et un jour à l'autre, on va quand même exploser. Et parfois, en tant que chrétien, on dit, c'est mieux de faire comme ça. Et je ne dis pas le contraire, même dans le court terme. Il vaut mieux tenir la langue. Il vaut mieux ne pas exploser. Mais ce n'est pas la solution à long terme. Parce que tôt ou tard, ça va nous dévorer de l'intérieur, en quelque sorte, va nous ronger de l'intérieur. Ce n'est pas la meilleure façon de faire. Et pourtant, je connais la tentation, parce que je pense que si je me laissais aller à ma propre nature, c'est dans ce sens-là que je partirais tout le temps. Donc c'est dangereux. Par contre, il ne faut pas diriger la colère contre des personnes. Parce que là, on vient de le voir dans les Romains, ce n'est pas ça qui aide. D'ailleurs, dans les Éphésiens, on dit bien qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. C'est spirituel, c'est pas contre des personnes. Donc, troisième chose, il faut plutôt diriger la colère vers l'action, que la colère nous pousse à agir, peut-être aller voir quelqu'un pour dire quelque chose le plus calmement possible, ou agir au sein d'une association pour lutter contre telle et telle injustice, pour lutter en nous-mêmes et agir quand on sait que l'on doit s'améliorer quelque part. Donc la colère doit être en quelque sorte le moteur qui nous pousse à agir. Ne pas refouler, ne pas exploser, mais nous pousser à l'action. Ça me semble, pour moi, un bon résumé de l'ensemble des textes bibliques. Mais je n'ai pas un seul verset qui le dit, mais il me semble un bon résumé quand même de l'ensemble des versets. Voilà donc ce que je vous propose comme réflexion. Je suis allé plus loin que le texte, mais c'était l'occasion de parler de la colère qui est quand même constante dans le comportement humain depuis toujours, mais en se disant, mais Dieu, lui, il laisse agir sa colère contre le mal, et d'abord, nous pouvons être reconnaissants que cette colère est d'abord tombée sur son propre fils, où le fils était d'accord pour nous délivrer de la colère de Dieu, pour nous donner le salut et la vie éternelle.